Bienvenue sur la zone payante à Cube Radio. Je suis en compagnie de Stéphane Cadoret, journaliste au Journal de Montréal et Journal de Québec. Et on va commencer avec les histoires et les actus de la semaine, Steph, parce que il y a des choses qui se préparent, évidemment, pour la première saison. Les équipes, c'est assez tranquille quand même, là. Tu sais, on est dans une... Là, les équipes sont en train d'étudier leur adversaire. Il n'y a pas trop de moves qui se font, à part peut-être un petit peu d'acquisition à gauche, à droite pour patcher des trous. Mais le gros est fait. On est prêt pour la première semaine. Et la nouvelle qui retient un peu l'attention cette semaine, c'est le depth chart. Je sais pas comment franciser le mot, mais
l'alignement.
Des Steelers, où on a vu Mitch Trubisky apparaître comme corps arrière partant. Et même Roethlisberger a dit que c'était lui qui leur donnait la meilleure chance de gagner. Qu'est-ce que t'en penses?
Ben, écoute, Trubisky, c'est pas une surprise comme telle, là. Quand les Steelers l'ont acquis dans la saison morte sur le marché des agents libres, c'était le plan, là, qu'il soit un partant, fort probablement à court terme, là. On sait jamais, mais honnêtement, quand tu repêches un gars comme Kenny Pickett en première ronde, c'est pas parce que tu as une confiance absolue en Trubisky, on s'entend. Donc, Trubisky est le partant, oui. Moi, je suis pas convaincu là, de ce que ça va donner comme résultat. Ça peut pas être ben pire, remarque Ben Roethlisberger à sa dernière saison, complètement immobile, les pieds dans le ciment. T'sais, c'est dommage parce qu'il y a bien des gens qui vont se souvenir de ça alors qu'il a connu une carrière phénoménale. Mais tout cela étant dit, Trubisky au moins va amener une meilleure mobilité. T'sais, je dis pas qu'il va être meilleur puis plus intelligent que Big Ben. Il a pas son expérience non plus, puis son leadership. Mais il va amener une meilleure mobilité. Un gars en carrière qui a une fiche de 29-21, 64 touchés, 38 interceptions. Mais le gros point dans son cas, il a jamais été capable de produire beaucoup à l'attaque. T'sais, c'est un gars de 187 verges en moyenne par match. Puis là, certains vont dire « Ouais, mais à Chicago, ça a jamais été une grosse attaque aérienne. » C'est vrai, il reste qu'il va avoir plus de munitions à Pittsburgh autour de lui. Mais quand même, il a jamais donné l'impression d'un gars qui peut prendre les commandes d'une équipe puis l'amener à terre promise. Là, il a pas vraiment énormément évolué. Là, l'année passée, est-ce que son année comme réserviste à Buffalo derrière Josh Allen dans une organisation très solide va lui avoir fait du bien? Peut-être, mais je demeure convaincu à 100% qu'on va voir Kenny Pickett plus tôt que tard. Il a été convaincant en match préparatoire. Puis je pense que les partisans et les médias à Pittsburgh vont être très impatients. Là, dès qu'il va avoir une erreur, on va réclamer Kenny Pickett. Ça sera pas très long.
Trubisky, il a eu sa chance, disons, à Chicago dans un contexte qui n'était pas idéal. Il a jamais eu sa chance à Buffalo. Est-ce que tu considères que c'est sa dernière chance, mettons, à Pittsburgh là, en début de saison?
Ben, c'est rare, les corps arrière qui ont plusieurs opportunités là, de nos jours, là, t'sais, à part Carson Wentz qui a trois vies. Là. Mais sinon, une fois que tu as eu deux chances dans la NFL, c'est rare que tu vas avoir une troisième. Donc, Trubisky, c'est sa deuxième véritable chance parce que, comme tu l'as dit, à Buffalo, il a pas joué là, ou presque. Donc, écoute, il tombe dans une situation intéressante au sens où, comme je le disais, c'est une usine à receveurs de passes. Les Steelers, ça, c'est connu depuis des années. Puis quand il y en a un qui part, il y en a un autre qui prend le relais. Puis ça se passe souvent très bien, la transition. Donc, de ce côté-là, il y a une chance. La ligne offensive, c'est là que ça fait un petit peu peur. Comme je le disais, il y a une mobilité qui va permettre de sauver quelques jeux. Mais les Steelers sont pas exactement sur une pente ascendante en
non,
ce moment.
C'est sûr.
Cela
donc,
étant
la fiche
dit,
de saison avec une fiche positive pour Tomlin est en danger.
Ouais, effectivement, il n'y a jamais eu une fiche perdante, tu fais bien de le mentionner, mais c'est une division qui est très coriace. Là, tu regardes, il y a les Bengals, il y a les Ravens, les Browns, ça risque d'être plus difficile vu que Deshaun Watson est suspendu. Mais dans les prochaines années, là, ça va être une division très, très, très combative, honnêtement. Là. Donc, je le vois pas comme une solution à long terme.
OK, on va se diriger, on va rester dans la même division, si tu veux bien, parce que, tu sais, à ce stade-ci de l'année, souvent, on regarde qui est sur sa dernière année de contrat, tu sais, pour un peu regarder de quelle façon. On dirait que les joueurs jouent toujours mieux quand ils ont un contrat négocié à la fin de la saison. Il y en a qui aiment mieux signé avant leur dernière année de contrat pour avoir la tête libre pendant la saison. Lamar Jackson, qui est quand même un joueur qui a remporté le titre du joueur le plus utile, ou en tout cas qui pour son équipe, lui, il n'a pas de contrat pour l'an prochain. C'est un corps arrière qui pourrait faire autant d'argent que Patrick Mahomes, mais il veut se concentrer sur le football. Est-ce que tu crois ça, toi?
Il y a encore une maigre fenêtre pour s'entendre, là. Ce qu'on disait il y a quelques semaines, c'est jusqu'au kick-off, donc dimanche, les Ravens jouent. Il y a encore une mince fenêtre, là. Mais il reste qu'il y a plus de chances qu'il joue son année de contrat, finalement. Ça me rappelle un peu la situation, là, toujours avec les Ravens. Souviens-toi de Joe Flacco en 2012. C'était le corps arrière des Ravens à ce moment-là. Il était encore relativement jeune. Puis lui, ce qu'il avait dit, c'est « pas pressé de signer un contrat, je vais me concentrer sur la saison ». Puis entre guillemets, il l'avait pas dit lui-même, mais ce qu'il voulait, c'est miser sur lui-même. Puis ce que ça avait fait, c'est que Joe Flacco avait été phénoménal en série. Il avait mené les Ravens au Super Bowl vers une victoire. Là, ça avait été quand même, somme toute, une surprise cette saison-là. Je dis pas que Lamar Jackson va arriver au même résultat parce que les Ravens avec Lamar, c'est complètement un autre système. Mais c'est vraiment le pari qu'il prend. Mais je m'attends à un potentiel clash là, important dans les négociations parce que ce qui semble rechercher Lamar Jackson, c'est un contrat à la Deshaun Watson, donc entièrement garanti. Il a fait des allusions à ça sur ses réseaux sociaux. Puis le propriétaire de l'équipe, lui, Steve Bisciotti, avait clairement exprimé son dégoût quand les Browns avaient signé Watson à 230 millions entièrement garantis. Il avait mentionné, tu sais, que c'était pas une approche qui était profitable pour la NFL et blablabla. Donc, si c'est vraiment ça que Lamar Jackson veut, faut s'attendre à ce qu'il y ait un gros clash, une bonne confrontation là lors des négociations. Reste à voir si c'est juste des rumeurs. Mais il semble que c'est ça vers quoi Lamar Jackson se dirige.
Mais j'ai-tu compris que c'est lui qui négociait en plus son contrat?
En plein ça, il n'y a pas d'agent.
Donc ça ajoute quand même la pression pour le joueur. Là, tu sais, c'est quand même beaucoup de choses à lire, puis à revalider, puis à réfléchir dans ton lit, là, autre que ton livre de jeu.
Ouais, effectivement, je connais pas ses compétences à ce niveau-là, mais ça doit être extrêmement difficile de se représenter soi-même contre les puissantes équipes de la NFL. Tu sais, honnêtement, je trouve qu'il s'amène une pression indue avec ça. Tu laisses ça entre les mains de ton agent, puis tu te concentres sur le football. C'est sûr que c'est mieux. Je sais pas si ça va nuire à son jeu, honnêtement. Puis les Ravens, écoute. Il s'amène dans une nouvelle philosophie cette année, là. C'est-à-dire qu'on a investi beaucoup dans les dernières années sur les receveurs. Puis là, on semble se dire, bon, ben écoute, c'est pas ça notre système finalement. Il n'y a pas un receveur dominant nécessairement à Baltimore. Donc, c'est peut-être une autre approche finalement. J'ai hâte de voir comment Lamar va se tirer là, de tout ça, mais...
Bon, puis si tu gères les Ravens, puis que tu t'entends pas avec lui, puis que tu commences vers la date limite des échanges à voir que ça arrivera nulle part, puis que votre saison est pas partie pour gagner le Super Bowl, est-ce que tu penses que les Ravens seraient intéressés à aller chercher des premiers choix pour échanger Lamar Jackson?
C'est une possibilité, mais en même temps, combien de fois on voit un échange, Jean-Nic, d'un corps arrière important à la date limite des transactions? C'est extrêmement rare en cours de saison.
Ouais.
Peut-être qu'à ce compte-là, les Ravens diraient, écoute, on va pas le perdre pour rien, mais oublie pas une chose, ils ont toujours l'option à la fin de l'année de le désigner comme franchise tag, de le garder une autre année, de continuer les négociations. Donc, c'est pas comme si Lamar Jackson tombe libre comme l'air au mois de février. Il y a encore encore quelques mois, tu sais. Là, on parle qu'il faut qu'ils s'entendent avant la saison, mais les négociations pourraient se poursuivre à plus long terme. Donc, je serais très surpris là, du scénario que tu mentionnes.
OK, on va passer maintenant du côté derrière le banc, parce que les entraîneurs, eux, c'est une année incroyable là, en matière de changement d'entraîneur. Steph, là,
ça n'a pas de sens.
C'est quoi? C'est le tiers des entraîneurs qui ont changé d'entraîneur?
Tu regardes, là, j'ai fait le décompte, 10 nouveaux coachs. Puis, je me suis vraiment posé la question, Jean-Nic, es-tu déjà arrivé 10 nouveaux coachs? Moi, je me rappelais pas d'avoir vu ça. Puis, en fait, c'est le record est égalé. Je me souvenais pas, mais en 2006, c'est arrivé aussi 10 nouveaux head coachs. C'est arrivé aussi en 1997 et en 1978. Mais écoute, quand tu regardes une ligue qui a 100 ans, c'est pas un phénomène qui se produit très souvent.
Bon, puis là, mettons, on regarde la liste des coachs. Là, je vais la passer rapidement, mais Doug Pederson est rendu à Jacksonville. Mike McDaniels est rendu à Miami. Lovie Smith, un nom qu'on connaît, est rendu avec les Texans. Josh McDaniels, un autre nom qu'on connaît, est rendu avec les Raiders. Nathaniel Hackett est rendu avec les Broncos, qui il était auparavant avec les Packers. Brian Daboll, un coach qui roule sa bosse depuis longtemps, est rendu avec les Giants. Kevin O'Connell avec les Vikings. Matt Eberflus avec les Bears. Todd Bowles, le dynamique Todd Bowles avec les Buccaneers. Et Dennis Allen avec les Saints. Il y a la moitié de ceux-là, c'est des coachs qu'on entend parler depuis 20 ans. Est-ce qu'il y en a un là-dedans qui est dans une position plus avantageuse que les autres d'après toi?
Il y en a quelques-uns cette année. Moi, je trouve, j'en ai que, contrairement aux années passées où les équipes moribondes flushent leurs entraîneurs, tu sais, puis ils repartent sur des nouvelles bases, cette année, il y a plusieurs équipes, honnêtement, qui sont dans des bonnes situations, qui ont effectué un changement pour une raison ou une autre. Tu sais, je pense aux Raiders. L'année passée, ça allait pas mal. C'est une équipe de série, mais il y a eu tout le phénomène John Gruden. Il se retrouve avec un poste ouvert. Tu sais, c'est rare que tu vois ça. Todd Bowles avec les Bucks. Écoute, c'est une situation de rêve pour cette année. À long terme, je dis pas. Mais pour cette année, Bruce Arians décide, moi j'en ai assez, je donne l'équipe à Todd Bowles parce que Tom Brady revient. C'est quand même pas une mauvaise situation. Tu regardes, Mike McDaniel arrive avec les Dolphins. C'est une équipe qui a cogné à la porte des séries. Kevin O'Connell avec les Vikings, c'est pareil. Là, c'est pas une mauvaise équipe. Donc, il y a plusieurs situations, contrairement à d'habitude, je trouve, qui sont enviable. Écoute, Nathaniel Hackett...
Même Doug Pederson arrive, tu sais, il peut pas faire pire, là. C'est quasiment aussi pour lui une bonne position. Il y a des bons joueurs, ils sortent d'une année terrible. Qu'est-ce qu'il peut faire de pire?
C'est une mauvaise équipe, Jacksonville, donc sur papier, mauvaise situation. Sauf que, rappelle-toi l'an passé ce qu'on disait quand Urban Meyer a pris la job, on se disait, hey, il arrive d'une équipe qui a beaucoup d'argent à dépenser, qui repêche Trevor Lawrence, premier au total, un corps arrière potentiellement générationnel. Là, on semble avoir oublié ça parce qu'il y a eu une saison recrue, décevante, en dessous des attentes, en tout cas. Mais ça fait pas de lui un boss, là. Faut pas halluciner déjà puis se dire que sa carrière est finie. Trevor Lawrence peut très bien rebondir dans un environnement un peu plus calme que ce que proposait Urban Meyer, donc... C'est pas nécessairement une mauvaise situation non plus. Donc, je te le dis, d'habitude, moi, je me dis, oh boy, un tel arrive dans une position où ça va être insoutenable, où il faut tout repartir à zéro. Là, il y a beaucoup d'entraîneurs parmi les 10 que tu as nommés qui vraiment là partent sur des bonnes bases. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là. C'est pas souvent qu'un nouvel entraîneur-chef amène son équipe en série à sa première année. Mais on pourrait le voir plus qu'à l'habitude. Là,
j'aimerais ça t'entendre sur Josh McDaniels aussi. Là. La dernière fois qu'il a essayé d'être coach, là, il a gagné ses 5 premières games avec Tim Tebow.
Ah oui.
Puis après ça, c'est down the drain. Là. Non, il retourne dans la même division, cette fois-ci avec les Raiders, une équipe qui n'est pas reconnue pour avoir aussi beaucoup de cadres, ou en tout cas, les histoires n'attendent pas l'autre. Là. Est-ce que tu penses qu'il est dans une bonne situation, Josh McDaniels?
Ben, je pense qu'il a appris de ses erreurs de jeunesse. Le stage que tu rappelles avec les Broncos, ça avait été désastreux. Tu sais, il était à peine en poste, qui était en train de se chicaner avec Jay Cutler, qui était le supposé corps arrière partant à ce moment-là. Il avait amené Tim Tebow. C'était un peu n'importe quoi. Tu sais, il était bulldozer pas mal. Puis il disait à l'époque, ben pas à l'époque, c'est-à-dire il l'a dit des années plus tard, il avait essayé un peu
De
rentrer dans le tas, de faire son Bill Belichick. Puis il dit maintenant, il dit, je comprends que je serai jamais Bill Belichick. T'sais, il l'a mentionné durant la saison morte. Il va essayer d'amener son image, sa façon de faire. Je pense qu'il arrive dans une belle situation au sens où l'équipe a vraiment des munitions à l'attaque pour faire du bruit. D'un autre côté, tu fais bien de le mentionner, Jean-Nic. Dans l'état-major, honnêtement, ça brasse pas à peu près. Il y a le président qui a démissionné. Ils l'ont remplacé. Tu sais, ça se cherche. Il y a beaucoup de démissions dans cette équipe-là au fil du temps. Ça semble brasser pas mal dans les bureaux. C'est jamais nécessairement facile de travailler avec la famille Davis, là, Mark Davis maintenant. Avant, c'était Hall. Donc, lui, ça,
lui, c'est
pour
encore
un entraîneur-chef.
Plus difficile de travailler avec Al Davis maintenant, faut dire.
Ben, tu sais, c'est ça. Fait que pour un entraîneur-chef, c'est pas nécessairement une situation sécurisante. Mais Josh McDaniels, il était rendu là dans sa carrière à un moment donné. Je pense qu'il avait fait le tour du jardin avec les Pats. Là. Ça fait comme 15 ans qu'il était dans l'organisation comme coordonnateur offensif. Là.
Ouais, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu tournes la page. Là. Puis il faut que tu essayes à l'autre niveau. Puis Bill Belichick n'est pas parti pour partir, on dirait. Là. À un moment donné, on se disait Josh McDaniels va prendre sa place. Mais
ouais, c'est vrai.
Il part pas.
Ouais, c'est okay. Ça, il colle, puis c'est peut-être pas son successeur.
Bon, ben écoute, Steph, là, c'est la semaine numéro 1. On va faire nos prédictions après la pause. Je pense qu'on a tous hâte là, de parler de football, et c'est ce qu'on va faire tout de suite après la pause. Bougez pas.